Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. Bertrand Badie et Dominique Vidal sont nos invités. Ils ont dirigé L'heure du Sud ou l'invention d'un nouvel ordre mondial aux éditions Les Liens qui Libèrent. Dominique Vidal est avec nous au téléphone, journaliste, historien, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier coécrit avec Philippe Rekasevich, Israël-Palestine, une histoire visuelle parue aux éditions du Seuil. Dominique Vidal, bonjour.
Bonjour.
Et en studio avec moi, Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po. Son dernier livre, L'art de la paix, publié aux éditions Flammarion. Bonjour Bertrand Badie.
Bonjour.
Géopolitiquement, le monde reste dominé par le bras de fer États-Unis-Chine, ou de façon moins nette et controversée par l'opposition entre Occident collectif et le Sud global. Après avoir été apparemment homogénéisé par le marché, notre planète réapparaît fragmentée, voire divisée. Il y a plus de 20 ans, les grands pays en développement ont fini par émerger et les pays occidentaux, tout en restant puissants et riches, ont perdu le monopole de la puissance et de l'influence. Cette prise de conscience est toute récente, nous allons en parler. Début des années 2020, le Sud est hétéroclite avec un niveau de développement encore faible et il comporte des antagonismes qui ont jusqu'à présent été insurmontables entre la Chine et l'Inde par exemple. Une rhétorique anti-occidentale est très présente dans tous les pays du Sud. De quoi est-il question? De revanche ou de vengeance? Est-ce qu'on peut parler d'affrontement? L'avenir de cet affrontement est-il écrit d'avance? Bertrand Badie, beaucoup de choses vont être déterminées par la présidence Trump. L'intitulé de l'ouvrage que vous avez dirigé avec Dominique Vidal laisse entendre que l'heure du Sud a sonné. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
D'abord, première remarque, et contrairement à beaucoup de dénis que l'on entend presque quotidiennement, le Sud existe et s'affirme, ce qui est déjà une preuve de vitalité. Cette affirmation ne coule pas de source. Bien souvent, pour rejeter rapidement le concept, l'idée d'un Sud, on vous explique qu'il n'y a rien de commun entre la Chine et la Gambie. C'est vrai d'un point de vue objectif, du point de vue de la puissance, de la capacité, des ressources économiques, de la place dans les échanges mondiaux, etc. Mais il y a pourtant, je dirais, un triple dénominateur commun qui s'est constitué. Le premier dénominateur commun, c'est une commune mémoire de l'humiliation et de la position de dominé. Et ça, c'est quelque chose qui est très vif, tant dans la mémoire chinoise que dans la mémoire africaine, que dans la mémoire moyenne-orientale, et quelque chose avec quoi il conviendrait de compter. Le deuxième élément qui a soudé ce Sud, ça a été l'expérience malheureuse d'une commune marginalisation dans le jeu international. Comme vous le souligniez tout à l'heure, les grandes puissances traditionnelles, ce noyau euro-américain qu'on appelle Occident et qui était au départ l'expression exclusive du jeu international, et pratiquement jusqu'en 1945, tous ces blocs se sont dissous, mais n'ont pas laissé de place réelle à ces pays du Sud pour participer à la gouvernance. Et puis le troisième élément qui les réunit, c'est au nom justement de cette exclusion, une revendication nouvelle et qui devient de plus en plus déterminante de constituer des normes nouvelles. C'est ce qu'on appelle la bataille des normes, en disant, mais vous les Occidentaux, ou vous les puissances du Nord, parce qu'il faut mettre la Russie dans le même paquet, vous avez pendant des siècles défini les normes internationales, il serait peut-être temps qu'on ait une place pour les définir à notre tour. Donc, cette existence autour de trois éléments subjectifs, c'est-à-dire conscience d'un lot commun, tente à profondément modifier l'échiquier international, tente à bousculer la géopolitique et tente à accréditer des paramètres nouveaux. Et rien que cela, et sans préjuger de ce qu'en sera le résultat, on peut dire que l'heure du Sud a sonné parce que c'est devenu l'élément déterminant. De même que, par exemple, on en reparlera, la plupart, pas tous, mais la grande majorité des conflits ont lieu au Sud et ne peuvent être arbitrés non plus comme autrefois par des puissances du Nord, mais par les acteurs locaux du Sud, donc qu'il faut prendre en compte. Au lieu de, on y reviendra probablement, mais la phrase m'a tellement estomaqué que je ne peux pas m'empêcher de la citer en ouverture, que de dire quand même les États africains auraient pu nous remercier, nous la France, de ce que nous avons fait pour eux. Bah, voilà, ça...
Ça, c'était la parole d'Emmanuel Macron à la conférence des ambassadeurs au début de l'année.
Je n'osais pas le dire.
Alors, grande majorité des conflits au Sud se situent au Sud, évidemment, on en parlera, et des conflits essentiellement intra-étatiques et non pas inter-étatiques. Dominique Vidal, je me tourne vers vous. Bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de comprendre quels ont été les accélérateurs de cette émergence commencée, finalement, en fait, c'est aussi la décolonisation. Alors, Bertrand Badie, vous le dites tous les deux dans l'ouvrage, avec cette idée que les vieilles puissances n'ont pas su regarder la décolonisation en face ni la comprendre. Dominique Vidal, qu'est-ce qu'on a raté en agissant ainsi ?
On a raté la possibilité de dire adieu à la guerre froide en organisant le monde différemment. Et je voudrais là évoquer une dimension de cette question qu'en général on traite en fin de parcours, mais qui est décisive. C'est l'organisation des Nations Unies.
Oui, l'ONU.
C'est-à-dire, tout le monde voit combien l'ONU est impuissante, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine. Et c'est très inquiétant, parce que si l'ONU est marginalisée, ne joue plus son rôle, alors il n'y a plus de règles du jeu. Mm. Et donc, chacun va vouloir dessiner le monde selon sa propre vision, sa propre volonté. Il y a dans cette question de l'ONU, évidemment, une question majeure qui est la place du Sud. L'ONU a été fondée après la Seconde Guerre mondiale sur la base des rapports de force de l'époque entre les vainqueurs du nazisme et du fascisme. Et donc, aujourd'hui, le monde a changé et il faut absolument trouver une manière de réintroduire fortement le Sud et les questions que pose le Sud à l'intérieur des Nations Unies. Ça pose la question des pouvoirs respectifs du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Plus on ira vers une Assemblée générale importante dans ses pouvoirs, et mieux les choses pourront se passer. Mais c'est aussi le problème du mode de fonctionnement de l'ONU, c'est-à-dire ce droit de veto qui permet aux 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale de bloquer tout processus qui ne leur convient pas. Et évidemment, il y a là la nécessité, on le sent, d'une réforme globale de l'ONU. Ce qui est étonnant, on en parlait souvent avec Bertrand, c'est depuis plusieurs années, enfin plus que des années d'ailleurs, que nous menons cette entreprise de l'état du monde, on a une situation étrange. Il faudrait trouver une autre formule qui démocratise l'ONU. Je me souviens que Kofi Annan, quand il était secrétaire général de l'ONU, sans doute un des meilleurs secrétaires généraux que l'ONU ait compté, il avait proposé, par exemple, d'imaginer que les questions essentielles soient traitées et adoptées, réformées, sur la base d'une majorité qualifiée de la population mondiale. Par exemple, toute intervention majeure dans des conflits comme celui qui ravage l'Europe ou le Proche-Orient, ça ne pourrait se faire que si les votants au sein du Conseil de sécurité avaient dans leur volonté le soutien de la majorité de la population mondiale, d'une majorité, disons.
Alors Dominique Vidal a raison, j'avais bien sûr prévu de parler de l'ONU, peut-être en fin d'émission, et c'est très bien qu'on ait remonté le sujet. Voilà, ce nouvel ordre mondial, c'est aussi, Bertrand Badie, la fin du multilatéralisme, d'une certaine manière, la fin de la diplomatie, et on est dans une impasse. Est-ce que vous sentez, à l'ONU, quelque chose bouger? Voilà, il y a eu des tentatives, les pays du Sud ne parviennent pas forcément à se mettre d'accord sur qui pourrait intégrer le Conseil de sécurité pour représenter des continents, je pense à l'Afrique, je pense à l'Amérique latine. Est-ce que, voilà, vous sentez quelque chose bouger dans ce sens-là, Bertrand Badie ?
Oui. D'abord, je ne pense pas que nous assistions à la fin du multilatéralisme pour deux raisons. D'abord, parce que l'on pourrait se demander si le multilatéralisme a jamais existé. Le multilatéralisme, il ne faut pas l'oublier, qui a été conçu par le président américain Woodrow Wilson lors des négociations de la paix de Versailles en 1919, qui a abouti à la SDN, et ensuite en 1945 avec la charte de San Francisco aux Nations Unies, lesquelles Nations Unies sont un peu et même beaucoup le prolongement de la Société des Nations, toute cette construction repose non pas sur le multilatéralisme stricto sensu, mais sur l'équilibre de puissance, c'est-à-dire la concorde des plus puissants. Je cite souvent cette phrase très évocatrice prononcée en 1919 à Versailles par le Premier ministre britannique Lloyd George, qui, écoutant Wilson exposer son projet de Société des Nations, dit « bah oui, vous avez raison, il faut prolonger le concert européen ». Et c'est-à-dire qu'on est toujours dans ce modèle. Mmh. Et d'un certain point de vue, le vrai multilatéralisme, c'est-à-dire la participation à laquelle je faisais référence tout à l'heure, égale de tous à la gestion et à la gouvernance du monde, n'est jamais né. Hein. Et ça, on a tendance à l'oublier. Le Conseil de sécurité, c'est l'oligarchie du monde. Mmh. Ce n'est pas le multilatéralisme.
C'est ce que vous dénoncez dans l'ouvrage en disant, vous parlez de dénonciation de la vision hiérarchique de
l'humanité. Voilà, exactement. Et c'est ça qui bloque tout. Et la deuxième raison pour laquelle je considère que le multilatéralisme n'est pas mort, c'est qu'aujourd'hui, infiniment plus qu'hier ou avant-hier, on ne peut plus se passer de multilatéralisme. Techniquement, c'est évident, mais on l'oublie toujours. N'oubliez pas que si vous pouvez surfer sur Internet, prendre l'avion, décoller et atterrir, téléphoner, utiliser les médias, c'est grâce à une gouvernance globale qui n'est pas très affichée, mais qui, en tous les cas, dépasse la classique logique souverainiste. Donc, elle est active. Le grand problème, c'est qu'elle n'est pas active dans les questions politiques, et notamment de guerre et de paix. Et Kofi Annan, que Dominique a eu tout à fait raison de citer, parce que c'est un très grand monsieur, en a eu la préscience en disant « Avec le Conseil de sécurité, on n'arrivera jamais à rien. C'est par le multilatéralisme social que l'on peut faire quelque chose, et celui-là, on n'en parle jamais, comme on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Le multilatéralisme social a fait un travail considérable.
Vous pensez à quoi très concrètement?
Je pense au programme alimentaire mondial, je pense à la FAO, je pense à l'OMS, je pense au commissariat aux réfugiés, je pense à l'UNICEF, c'est-à-dire toutes ces agences de l'ONU qui, sur le terrain, sont en train de casser ces dynamiques conflictuelles qui organise ce que vous appeliez justement tout à l'heure ces nouveaux conflits intra-étatiques qui sont généralement le résultat d'une sécurité humaine inachevée et inaccomplie qui pousse les peuples et notamment ceux qui sont les moins bien lotis, c'est-à-dire les peuples du Sud, à la violence et au conflit. Donc vous voyez que c'est là la preuve que l'on a besoin de cet effort multilatéral. Quand on le laisse faire, il atteint des résultats tout à fait remarquables. Il faut savoir passer maintenant aux politiques, ce qui est très difficile, ce qui est un défi. Mais n'oublions jamais que Wilson nous a offert la caricature du multilatéralisme, c'est-à-dire en fait le bricolage du concert de puissance, beaucoup plus que le vrai multilatéralisme. Si on avait écouté un Français, vous savez, c'est rare que je pousse des cocoricots, qui était son contemporain Léon Bourgeois, lui avait une approche beaucoup plus humaine et beaucoup plus mondialisée, même avant la lettre, du multilatéralisme. Ça aurait été bien meilleur. Relisez son ouvrage pour une Société des Nations qui date de 1907.
Donc, on l'a évoqué, dénonciation de la vision hiérarchique de l'humanité. On va bien sûr parler des conflits actuels qui nous disent bien sûr quelque chose de ce qu'on évoque depuis le début de cette émission, l'émergence du Sud global, pense à la guerre d'Ukraine et puis Israël. Mais avant cela, Dominique Vidal, derrière la dénonciation de la vision hiérarchique de l'humanité, il y a aussi la dénonciation des États-Unis. Et quelle force, finalement, l'anti-américanisme a, selon vous, comme ciment du Sud global?
Il me semble que, souvent, on a tendance à dire « l'ONU ne sert plus à rien, l'ONU est impuissante, etc. » C'est vrai que l'absence totale de la communauté internationale dans le conflit entre Israël et les Palestiniens, c'est une absence qui nous meurtrit tous. On a l'impression, et les jeunes l'ont bien manifesté dans les campus américains ou dans les universités françaises ou italiennes, on a l'impression que rien ne viendra de l'extérieur. Or, si rien ne vient de l'extérieur, il est clair que le processus actuel de colonisation et d'annexion maintenant des territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 va se poursuivre d'une manière implacable. Or, quand on regarde bien le peu qui s'est fait, mais qui est très important, il s'est fait à l'ONU. Je pense à l'Assemblée générale elle-même, avec les débats autour de la guerre israélienne, de cette sorte de génocide en cours. Et je pense aussi à la prise de pouvoir, entre guillemets, de la commission internationale de justice ou de la Cour pénale internationale. On a vu l'immense majorité écrasante des États voter pour donner la parole à la CIJ, à la CPI. On a vu aussi l'immense majorité des États réaffirmer la nécessité d'un État palestinien qui serait évidemment membre de l'ONU. Donc, il y a quelque chose qui s'est fait sentir pendant ce conflit épouvantable et qui est venu de l'ONU et des organisations onusiennes.
Bertrand Badi, la guerre d'Ukraine, la guerre de Gaza, est-ce que ces guerres marquent quelque chose de nouveau dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui avec l'émergence du Sud et qu'est-ce que ça, voilà, comment ça vient se positionner?
Ah, tout à fait. Je crois que ce sont des conflits qui sont révélateurs, justement, de ce nouvel équilibre mondial. Malheureusement, Vladimir Poutine l'a compris avant les Occidentaux. C'est-à-dire a très bien compris comment il pouvait corriger, nuancer ses défaites militaires, puisqu'il était question pour l'armée russe d'arriver en 3 jours à Kiev, par des succès diplomatiques, présentant ses défaites sur le sol ukrainien comme étant le fait de l'agression de l'Occident collectif, se présentant comme victime de ce qu'il appelle cet Occident collectif, et donc créant de manière assez inattendue une sorte de solidarité du Sud autour de ses propres options militaires, impériales et agressives, ce qui est effectivement parfaitement contradictoire. Ça prouve 2 choses. Un, la manière dont on peut manœuvrer et manipuler diplomatiquement cet ensemble de pays qui constituent le Sud. Et là, il a réussi. Et ça montre une deuxième chose, c'est la promptitude avec laquelle les pays du Sud ont tendance à comprendre le discours victimaire, qui rejoint les thèmes dont je parlais tout à l'heure. Dans le conflit israélo-palestinien, les choses sont encore plus nettes pour une raison très simple, c'est que le conflit israélo-palestinien, c'est quand même un conflit nord-sud. C'est-à-dire Israël se présente et est présenté comme la pointe avancée du monde occidental au Proche-Orient, alors que la Palestine apparaît comme le parangon des malheurs du Sud. Et donc, on voit bien effectivement se cristalliser une solidarité. Et alors, ça, c'est très important pour notre sujet, une solidarité qui est plus ou moins interétatique. Ce n'est pas tellement au niveau interétatique que la solidarité du Sud autour de la Palestine s'effectue, mais qui est surtout humaine et sociale. C'est-à-dire, on voit à quel point ce sont les peuples du Sud qui portent l'emblème palestinien, que ce soit, prenons pêle-mêle, les manifestations à Casablanca, il y a quelque temps, les manifestations du Hirak en Algérie, ou que ce soit la Coupe du monde de football à Doha, où on voyait plein de drapeaux palestiniens. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement une internationale des pays, des peuples du Sud, mais une internationale de la souffrance.
Internationale de la souffrance, je vous interromps Bertrand Badi, on laisse la place au journal et je vous retrouve avec Dominique Vidal après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Nous retrouvons Bertrand Badi et Dominique Vidal. Ils ont dirigé L'heure du Sud ou l'invention d'un nouvel ordre mondial paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bertrand Badi, je vous ai interrompu. Nous évoquions la guerre d'Ukraine, la guerre de Gaza. Et je vous posais la question de savoir dans quelle mesure ces guerres marquaient quelque chose de nouveau dans le sujet qui nous occupe avec l'émergence du Sud global. Ce sera peut-être intéressant de revenir d'ailleurs sur une définition du Sud global. Mais vous parliez d'international de la souffrance.
Oui, parce que l'un des dénominateurs communs revendiqués par les pays du Sud, et je dirais par les sociétés du Sud, c'est l'inégalité sociale et économique et humaine dont elles sont, ces sociétés, victimes. Donc il y a une sorte d'emblématisation de la souffrance qui est, je dirais, l'étape 2.0 du développement. On avait autrefois une vision linéaire du développement, il faut rattraper ceux qui se sont déjà développés, donc s'aligner sur le modèle occidental. Là, maintenant, on arrive à une autre approche en disant, mais la souffrance qui est notre quotidien et notre identité, elle vient des dysfonctionnements profonds du système. C'est une idée qui déjà était à l'origine de ce qui incarne le mieux, à mon avis, le Sud global, qui est le G77, le groupe des 77, qui s'était constitué lors de la conférence d'Alger. Nous sommes à la fin des années 60 pour faire valoir cette commune revendication d'un ordre économique international nouveau. Alors, ce qui est intéressant et ce qui donne peut-être un nouveau relief à notre sujet, c'est que cette prise de conscience de la souffrance, elle est de plus en plus revendiquée au Nord par ceux qui se considèrent également victimes de cet ordre mondial. Et donc, on voit bien que le Sud n'est pas une notion géographique. Mmh. On ne va pas tracer une ligne en disant bah, « en dessous, il y a les pays du Sud ».
En dessous de l'équateur et
voilà, exactement. C'est beaucoup plus, je dirais, cet échec de l'intégration internationale, hein, dont je parlais tout à l'heure, échec du point de vue des cultures, de la diversité des cultures, échec du point de vue du développement économique, du point de vue du droit à la gouvernance, du droit à fabriquer communément des normes, tout ceci rassemble et commence à irradier au-delà, c'est-à-dire au sein des pays du Nord, où on voit qu'il y a de plus en plus des réseaux actifs d'empathie sociale avec les pays du Sud. Moi, j'ai vu des drapeaux palestiniens dans des cortèges de gilets jaunes. Mmh. Ça veut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Mais quand on observe le comportement de nos étudiants, moi j'ai été frappé que ce qui mobilisait la plupart des étudiants derrière la cause palestinienne, c'est l'indignation devant des dizaines de milliers de morts et ces 15 000 enfants martyrisés à Gaza. Bon, ça c'est pas du tout un choix idéologique ou religieux, c'est de l'empathie. Et ce Sud, il est en train de se construire autour d'une logique d'empathie, mais j'ajouterai une dernière chose, c'est cette empathie que nous, en Occident, nous ne savons pas regarder. C'est-à-dire, on ne comprend pas comment la nouvelle génération, les jeunes du Sud, tendent à rechercher activement un modèle nouveau, c'est-à-dire un ordre mondial nouveau, un ordre politique nouveau qui quelquefois les conduit à l'absurdité, comme par exemple applaudir un putsch ou brandir un drapeau russe. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela ? Il y a une volonté extrêmement forte de réinventer le monde, et c'est pour ça que nous parlons de l'heure du Sud, parce que ces dynamiques très profondes face à un Occident frileux et conservateur, c'est ce qui est en train de faire bouger l'espace mondial. Et c'est en cela que le Sud global n'est pas une entité géopolitique. D'ailleurs, je vous ai toujours dit à ce micro que la géopolitique n'existait pas ou n'existait plus. Mais c'est au contraire un effet très profond de tectonique des sociétés.
Dominique Vidal, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Bertrand Badi ?
Oui, oui, pour appuyer ce qu'il dit et pour insister sur une dimension de ces débats propres aux forces démocratiques à travers le monde, la planète aujourd'hui. Oui. Parce que on a longtemps présenté, c'est ça qu'on appelait le campisme, le fait de prendre position contre les uns ou pour les autres, comme une base même de l'organisation des relations internationales. Ce n'est évidemment pas le cas. Je ne pense pas que ça l'ait été autrefois, mais en tout cas, on en avait l'impression. Mais aujourd'hui, placer les sujets selon une hiérarchie, que ce qu'il s'agisse des victimes ou des positions impérialistes, ça amène à des absurdités. Parce qu'en fait, la hiérarchie des impérialismes, elle se fait entendre de manière différente selon l'endroit d'où l'on parle. En Amérique latine, c'est clair que l'impérialisme, c'est d'abord l'impérialisme américain.
Tout à fait.
Mais depuis Taïwan, l'impérialisme le plus périlleux, il est chinois. Depuis la Palestine, c'est évidemment l'impérialisme israélien. Et depuis le Kurdistan, en Turquie, c'est la Turquie qui est la seule armée d'ailleurs présente en Syrie, avec les hommes de la Russie, mais lesquels, on a bien vu, n'ont pas eu la possibilité de sauver Bachar el-Assad, comme ils l'avaient fait en 2015. Donc on a vraiment la nécessité d'avoir une vision complète, une vision qui permette de bien marquer ce que les alliances qu'on ferait avec le campisme ont de contre-nature. Comment, je termine là-dessus, prétendre défendre les droits des peuples aux côtés de l'Iran des Mollahs, de la Biélorussie de Loukachenko, de la Corée de Kim Jong-un ou encore d'Israël de Benjamin Netanyahou.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Il y a une question que je vous avais posée, Bertrand Badi, vous n'avez pas eu le temps d'y répondre. La question de la définition du Sud global. On parlait des Russes tout à l'heure. Les diplomates russes parlent non de Sud global, mais de majorité mondiale. Quelle lecture vous faites de ce distinguo?
Alors, c'est très intéressant, cette querelle d'appellation. Le Sud, c'est une notion qui a fait son apparition à la fin des années 60, c'est-à-dire ça a presque 60 ans d'âge. Hein. C'était au moment de la guerre du Vietnam, c'est né aux États-Unis d'un jeune gauchiste américain très hostile à l'intervention américaine au Vietnam, qui disait « Attention, on est en péril au Vietnam, on est mis en échec au Vietnam, il y a donc une force nouvelle qui fait irruption dans l'ordre international et cette force, on la voyait plus au sud que les pays qui constituaient effectivement le vis-à-vis URSS, États-Unis ou Occident et monde soviétique. » Et très vite, on s'est aperçu que cette appellation géographique n'avait aucun sens. C'est-à-dire que la Mongolie, qui est au sud, est beaucoup plus au nord que l'Australie, qui est au sud géographiquement, mais appartient au nord politiquement. Donc tout ça, ça ne colle pas. Et donc, on a malheureusement beaucoup trop abusé de cette moquerie, qui en soi pouvait paraître fondée, pour ne pas vouloir voir. Pour considérer que non, c'est une fabrication d'un télo ou de quelques agités, le Sud n'existe pas. C'est la doctrine officielle des diplomaties occidentales. Ce qui a eu un effet très pervers, c'est de nous isoler. D'abord parce que ça a renforcé le sentiment d'humiliation de la part de ces pays. Il n'y a rien de plus désagréable que d'entendre dire que vous n'existez pas, n'est-ce pas ? Et puis ensuite parce que ça nous a empêchés de construire des partenariats. Et dans la vie internationale, le partenariat, c'est la base de la paix. Hein. Et donc on n'a pas su construire ces partenariats. Quand M. Poutine est arrivé, lui, homme du Nord, dans tous les sens du terme, et vraiment dans tous les sens du terme, autant politiquement que géographiquement, a eu très vite une intuition. Et il s'est appuyé non pas sur l'idée de Sud qui était plutôt en sommeil au début de ce siècle, mais sur l'idée d'émergence, qui n'est pas la même chose, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Et lorsque Goldman Sachs, les économistes de Goldman Sachs ont inventé le concept de BRICS, c'est-à-dire de ces économies émergentes, Brésil, Russie, Inde et Chine, à l'époque, Poutine a eu l'intuition que ça pouvait lui servir politiquement. D'où la conférence d'Ekaterinbourg, où il a réuni les trois autres briques en question, et ça a été le début de l'aventure. Et effectivement, Poutine ne pouvait pas continuer à s'identifier au Sud. Mmh. C'est pas cet homme du pôle Nord qui allait se présenter comme l'incarnateur du Sud. Et il a eu, faut bien dire, l'intelligence, hélas, de forger une notion beaucoup plus convaincante et beaucoup plus dynamique sur le plan de sa propre diplomatie, c'est de dire, bah, si vous faites l'addition de tous les non-occidentaux, nous sommes majoritaires. Et si nous avons la majorité, c'est que les autres ont juridiquement tort, pour reprendre une formule qui n'était pas la sienne. Et du coup, effectivement, pour pouvoir occuper cette place peut-être de leader de ce Sud global, il faut à Poutine qu'il en travestisse la nature et qu'il se présente comme l'incarnation de cette majorité qui est effectivement, si vous additionnez tous les pays du Sud et la Russie, non seulement majoritaire sur le plan démographique, mais sur bien d'autres plans également. Donc ça, c'est la nouvelle bataille du monde. Il faut faire très attention.
C'est le leadership du Sud, c'est ça, la nouvelle bataille du monde
Alors, il y a plusieurs batailles dans le monde actuel. Hein. Vous savez, que je le disais en commençant, il y a la bataille de sens, c'est-à-dire la bataille entre plusieurs cultures, alors que les Occidentaux disent non, il n'y a qu'une seule culture officielle, celle du droit international que nous avons fixée. Il y a ensuite la bataille de la gouvernance, c'est-à-dire qui a le droit de gouverner le monde. Et puis maintenant, il y a la bataille des normes. Et effectivement, on peut ajouter une quatrième bataille qui a été d'ailleurs initiée par Chou En Lai au moment de la conférence de Bandung afro-asiatique en avril 1955. Ça, c'est donc du très vieux, où Chou En Lai a compris que la Chine s'accomplirait beaucoup mieux comme étant le leader de ce Sud en gestation, on disait le tiers-monde à l'époque, ou le monde afro-asiatique, qu'en étant le sous-lieutenant du camp soviétique. Et c'est ainsi que la Chine s'est présentée comme candidate naturelle au leadership du Sud. Poutine essaye...
Sous-lieutenant de la Chine, peut-être, la Russie aujourd'hui ?
Pardon ?
La Russie aujourd'hui, sous-lieutenant de la Chine ?
C'est effectivement une équation. C'est une équation qui fait très peur à Moscou, qui fait se réjouir à Pékin et qui est sous la loupe de tous les analystes parce que la Chine a objectivement et subjectivement beaucoup plus de ressources pour être leader du Sud que la Russie. Objectivement parce qu'elle est plus forte, elle est plus puissante, et subjectivement parce que la Chine est clairement un pays qui appartient à l'histoire du Sud. C'est toujours cette dimension subjective sur laquelle j'insiste. D'ailleurs, on est comme vous, disent les Chinois aux Africains, on a dû subir cette domination occidentale. Vous, vous avez été colonisés, nous, on a été quasi-colonisés, victimes, la guerre de l'opium, enfin tout ce qu'on connaît. Donc il y a une très forte subjectivité qui réunit la Chine aux autres pays du Sud. La Russie, beaucoup moins, mais vous allez dans les rues de Bangui, de Ouagadougou ou de Bamako, vous trouvez plein de drapeaux russes, quand même. Ce qui prouve que la subjectivité, quand elle se met en marche, elle peut aller très loin, jusqu'à vous auto-persuader que la Russie, c'est le leader du camp de la liberté. Il faut une sacrée imagination pour dire ça de la Russie de Poutine, mais sociologiquement, il faut admettre que ça marche.
Alors, le monde, et vous l'évoquez dans l'ouvrage, demeure très, très militarisé. La planète est de plus en plus violente, avec une sorte de loi de la jungle qui s'installe. La question qui se pose est de savoir comment en sortir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le rapport de force est en train, d'une certaine manière, de remplacer la guerre? Dominique Vidal.
Il me semble que, pour l'instant, on ne peut pas parler d'empêcher la guerre. Nous avons en Ukraine et à Gaza les pires guerres qu'on ait eues depuis très longtemps, y compris pendant la guerre froide. Il faudrait remonter sans doute à la guerre du Vietnam pour mesurer l'évolution qui s'est développé. Ce qui me paraît important, je partage ce qu'a dit Bertrand, c'est que les alliances dont nous parlons ne ressemblent plus vraiment aux alliances d'autrefois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de blocs dans lesquels chacun se mettrait au garde-à-vous devant tel ou tel leader du Sud global. Il y a des alliances de circonstances. On peut même éventuellement ne pas parler d'alliances, mais simplement de la possibilité d'avoir, à un moment donné, dans des circonstances données, des convergences qui ne vont pas, d'ailleurs, se maintenir et transcender la période. C'est donc très important de mesurer que chaque pays du Sud se détermine non pas en fonction de la position prise par la Russie ou par la Chine, mais en fonction de ses propres intérêts, tels que les élites, en tout cas, les conçoivent. C'est évidemment là aussi un problème majeur dans la vision du combat pour un monde plus démocratique et géré plus démocratiquement, c'est-à-dire avec tous et non pas avec seulement une partie de la planète.
Bertrand Badie.
Oui, moi je pense que ce problème de la conflictualité est essentiel et tout à fait central. C'est-à-dire que lorsqu'on examine les conflits qui ensanglantent le Sud, et hélas, ils sont fort nombreux aujourd'hui, en Afrique, en Asie notamment, on s'aperçoit qu'ils sont d'une toute autre nature que la guerre telle que nous nous la représentions et telle qu'elle était décrite par un Clausewitz ou un Carl Schmitt. C'est-à-dire que ce sont des conflits beaucoup plus intra-étatiques que inter-étatiques. Et si vous regardez ce qu'il y a derrière ces conflits intra-étatiques, vous avez toujours, toujours, une insuffisante sécurité humaine, une crise de la sécurité humaine. Et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, l'avait dit dans sa très grande sagesse dès 1994, et Kofi Annan avait repris cette idée. Or, justement, le grand défi de notre monde d'aujourd'hui et de demain, c'est, je ne dis pas d'arrêter les conflits, parce que, et je rejoins ce que disait Dominique, on n'y arrive pas, d'un certain point de vue. Vous avez vu un traité de paix, il y a à peu près 500 conflits qui se sont développés dans le monde depuis 1945, vous avez vu un traité de paix qui a fonctionné. Et pour l'Afrique, les accords d'Arusha, de Lagos, de Libreville, de Yaoundé, et on pourrait continuer, d'Alger, tout ça, ça n'a jamais fonctionné. Et donc, le grand défi de notre nouveau millénaire, hein, au-delà du siècle, c'est de trouver cette formule qui crée un équilibre social rendant beaucoup plus incertains ces conflits intra-étatiques. Le conflit sahélien, il est peut-être manipulé par des entrepreneurs djihadistes, mais fondamentalement, ce n'est pas le djihadisme qui est à l'origine du conflit sahélien. C'est la désertification, c'est l'incapacité institutionnelle, c'est l'essor des flux mafieux qui viennent souffler sur les braises, et on pourrait ainsi continuer. Ce négationnisme, cette volonté de transfigurer les conflits pour mettre sur le dos des entrepreneurs islamistes ou je ne sais quoi, une responsabilité qui est en fait celle d'une planète qui ne sait pas gérer ses défis collectifs, c'est mortifère, cette démarche-là. Donc, justement, ce qui est fort dans l'idée du Sud, c'est de renouveler nos paramètres. C'est fini la rivalité de puissance de bon papa ou d'arrière-grand-papa. C'est plus ça qui est la principale menace. La principale menace, elle est globale. Et la grammaire du Sud, c'est justement de savoir construire une responsabilité commune face à ces défis globaux au lieu de s'en sortir en disant « bah c'est parce que ce sont des sous-développés, c'est parce que ces gens-là, ils aiment se battre, c'est parce que ces gens-là, ils ne savent pas se gouverner, c'est parce que ces gens-là ne savent pas nous imiter convenablement ». Ce n'est pas ça le sujet. Et justement, la naissance d'un Sud global, c'est un souffle nouveau dans cette réflexion sur la gouvernance globale du monde.
Et sur des sujets donc mondiaux et globaux comme le changement climatique, l'insécurité alimentaire, et puis voilà, créer un équilibre social dans un monde où finalement les inégalités sont de plus en plus importantes. C'est un vrai défi. Bertrand Badie, merci. Je remercie aussi Dominique Vidal qui était avec nous au téléphone, journaliste, historien et essayiste, et Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po. Et je rappelle l'objet de cette émission sur le Sud avec la parution d'un ouvrage que vous avez tous les deux dirigé, L'heure du Sud ou l'invention d'un nouvel ordre mondial aux éditions Les Liens qui Libèrent. Géopolitique était signé Marie-France Chatin avec Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.